Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on déballe une pile de sources vraiment fascinantes. On a des plans architecturaux, des articles de recherche et nos propres notes sur un endroit de fou.
Ouais, le fameux observatoire Kourou Unification.
Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre comment ce bâtiment dingue arrive à transformer des concepts mathématiques hyper ardus en une vraie architecture physique.
C'est un pari épistémologique inédit, vraiment. Faut complètement oublier le vieux tableau noir poussiéreux, quoi. Là, on entre littéralement à l'intérieur d'un algorithme. C'est comme si on le regardait respirer.
C'est ça. Le lieu se contente pas d'exposer la science, il spatialise la vérité. Mais du coup, pour justifier qu'un tel bâtiment tienne debout, les plans montrent qu'il repose sur une règle de base, un genre de moteur.
Tout à fait. Et ce moteur, c'est un triptyque très simple. Flux plus contrainte égale relief.
D'accord.
En gros, prenons un flux mathématique brut, disons la distribution des nombres premiers. Sans contrainte, ce flux, c'est juste du bruit, une tempête d'informations illisibles.
Ouais, un chaos total.
Exactement. Et à l'inverse, une contrainte toute seule, sans flux à sculpter, c'est juste une coquille vide. Donc le bâtiment utilise un filtre géant, ce qu'on appelle la topologie modulo 30.
Ah, attends, modulo 30. Faut qu'on vulgarise un peu pour éviter de perdre les gens. C'est comme l'eau d'une rivière, non?
Et c'est une super métaphore, ouais.
L'eau, c'est le flux, et sans les rives pour la bloquer, c'est une inondation boueuse et illisible. Les rives, c'est la contrainte qui force l'eau à creuser un paysage, un relief. Mais pourquoi ce modulo 30 en particulier?
Eh bien parce que dans ce cadre précis, sur les 255 sous-ensembles mathématiques possibles, il y en a exactement 63, pas un de plus, qui possèdent une rigidité spectrale absolue, c'est-à-dire un spectre de Fourier purement entier.
Oh là là! Pause. Un spectre de Fourier purement entier. On avait dit pas de leçon de fac de maths. Concrètement, quand on marche dans cet observatoire, on voit quoi?
Ah pardon, c'est vrai, déformation professionnelle, je suis désolée. Alors, physiquement, ces fameux 63 sous-ensembles, ce sont les 63 seuls couloirs de l'édifice où le sol est parfaitement droit.
Ah ouais, d'accord.
Il n'y a aucune illusion d'optique dans ces espaces-là, la lumière blanche y est éclatante et l'architecture guide nos pas sans aucun effort. Le flux révèle ses aspérités uniquement quand il frappe le mur de la contrainte.
Je vois. Mais j'ai une critique là-dessus. Si on se balade dans ces couloirs lumineux, hyper guidés, est-ce qu'on risque pas de donner une fausse impression de contrôle total?
C'est le grand piège, oui.
Surtout quand la science elle-même bloque sur un problème. Comment le bâtiment gère ces zones d'ombre?
C'est là qu'intervient ce qu'ils appellent le quintet épistémique. Le bâtiment refuse catégoriquement l'illusion de la toute-puissance.
D'accord. Et ça marche comment, au juste?
C'est un processus en 5 étapes pour chaque interaction. Sensation, idée, action, trace et surtout la limite. En fait, chaque aile du bâtiment doit physiquement s'arrêter en déclarant ce qui n'est pas prouvé. L'exemple le plus troublant, c'est la salle 6. On l'appelle le verrou.
Ah, le verrou. C'est ce fameux gouffre noyé dans la brume dont parlaient les articles.
C'est ça, on marche sur une passerelle en métal, extrêmement solide, qui représente le système local, donc la partie des mathématiques qu'on maîtrise. Et d'un coup, le métal se déchire brutalement.
Waouh, comme ça, sans prévenir.
Ouais, des câbles pendent dans le vide, et face à soi, c'est un précipice immense, avec une brume artificielle très dense. Ça, c'est le système global, ce territoire encore insaisissable. Le vide physique interdit d'avancer et force à faire demi-tour.
Mais honnêtement, c'est pas profondément frustrant? Dépenser des millions pour construire un chef-d'œuvre architectural et dédier une salle immense à un pont cassé. C'est quasiment fêter une défaite conceptuelle, non?
On pourrait le croire, c'est sûr, mais l'observatoire renverse cette vision. Spatialiser un mur, c'est pas célébrer l'ignorance. C'est refuser de peindre un faux paysage pour faire croire qu'on a tout compris.
Ouais, c'est vrai que de l'avouer de manière aussi frontale, ça empêche de faire passer une vague théorie pour une vérité certifiée.
Exactement. Ce pont brisé grave dans le marbre une humilité essentielle.
Et ça m'amène à parler d'un outil visuel brillant qu'ils utilisent, le mode cristal.
Ah oui, c'est vraiment la clé de voûte de l'honnêteté du lieu.
Quand ce mode est activé, les certitudes prouvées deviennent visuellement nettes, claires comme du cristal. Mais toutes les conjectures incertaines se couvrent de brouillard. L'honnêteté intellectuelle se visite littéralement comme un monument.
Et c'est ce qui garantit la solidité du reste de l'édifice. Si on sait exactement où la route s'effondre, on peut marcher en toute confiance sur les kilomètres qui précèdent.
C'est limpide. Et ça me donne une pensée assez vertigineuse pour clore cette plongée en profondeur. Ce lieu arrive à bâtir une frontière physique et visible entre la vérité et l'incertain. Je me disais, est-ce qu'il serait envisageable d'appliquer cette architecture de la prudence, ce mode cristal, à nos plateformes numériques quotidiennes?
Oh, tu veux dire sur les réseaux sociaux, par exemple?
Exactement. Imaginons si les informations non vérifiées s'enveloppaient littéralement de brouillard sur les écrans, pour endiguer la désinformation.
Ça changerait complètement notre rapport à l'information.
Gardez cette idée en tête la prochaine fois qu'il faut naviguer à vue dans un fil d'actualité rempli de fake news. Ça laisse de quoi méditer. C'est sur cette réflexion qu'on termine notre plongée d'aujourd'hui. À la prochaine.